Voilà, cette nuit de l'IA et après, donc, la santé, place au divertissement. S'il y a bien aussi un secteur qui va être bouleversé par l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative, c'est bien celui-là. D'ailleurs, qu'en penses-tu, BFM IA ?
Parler de divertissement et d'IA est crucial, car l'IA transforme le cinéma avec des effets spéciaux époustouflants, génère des bandes-sons uniques en musique et personnalise les recommandations sur les plateformes de streaming. Elle révolutionne aussi la création de jeux vidéo et l'interaction avec les contenus, rendant le divertissement plus innovant et captivant pour tous. C'est une véritable révolution qui enrichit notre expérience culturelle au quotidien.
Et oui, la révolution de l'IA donc dans le domaine du divertissement. Et je vous présente tout de suite nos invités. J'accueille sur ce plateau de la nuit de l'IA Rodolphe Chabrier, le président de MacGuff, et Vincent Luciani, le cofondateur et CEO d'Artefact. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous pour cette deuxième nuit de l'IA. Et on va parler de l'agence de création publicitaire Fred et Farid, que vous connaissez sans doute, qui mise aussi sur l'intelligence artificielle pour booster en fait ses créations. Et inspiré par ses deux bureaux en Chine et aux États-Unis, l'agence parisienne a lancé son studio Almagination. On écoute et on regarde le reportage de Léa Arojo et on revient.
Dans ce studio de production se trouvent 6 artistes de l'IA, des salariés chargés de passer commande à l'intelligence artificielle pour créer tout type de contenu à destination des marques, des sociétés de production ou des agences. Yann Rougeron, directeur de création de Fred et Farid, nous montre un exemple.
Admettons que j'ai besoin d'avoir des visuels d'un chien assez luxe, assez premium, en noir et blanc. En l'espace de très peu de temps, j'écris quelques mots avec une nomenclature particulière dans un logiciel qui s'appelle Midjourney. Et voilà ce que ça me génère. Un résultat quasiment def, on dirait que ça a été shooté par un professionnel.
En une journée, jusqu'à 4000 visuels peuvent être créés, ce qui permet d'aller 3 à 4 fois plus vite dans la production de contenu. Olivier Lefebvre, président de l'agence Fred et Farid à Paris, a pour ambition de devenir un leader dans l'IA créative.
L'idée, c'est comment nous, en tant qu'humains, on utilise l'IA, comment on apprend à la maîtriser à la perfection pour servir les marques. Aujourd'hui, on a investi vraiment en termes de formation pour comprendre comment cela fonctionne et générer des images de très grande qualité. C'est très compliqué.
Depuis le lancement du studio en début d'année, de nouveaux annonceurs ont contacté l'entreprise pour la production de visuels.
Alors, pour qu'on comprenne bien cette révolution, c'est-à-dire qu'en fait, plus besoin de photos. Là, vous tapez « je veux un chien noir sympa en noir et blanc » et vous avez des milliers de photos comme ça, hyper réalistes, qui arrivent. Là, on est dans le domaine de la photo, Rodolphe, mais dans le domaine de la vidéo, ça va tout aussi vite.
Oui, alors là, la photo et la capacité de faire ça, c'est déjà de l'histoire ancienne.
Ouais,
ça fait plusieurs années que
c'est de la préhistoire.
C'est de la préhistoire. Et
Oui, mais on a l'impression que ça s'est démocratisé, non, accéléré.
Ça se démocratise plus. Les agences de pub commencent à se rendre compte. Le problème, c'est
que les outils peut-être coûtent moins cher.
Non, mais ils coûtent zéro surtout.
Voilà, c'est ça.
Donc les agences, elles ont intérêt à amener une sacrée plus-value pour pouvoir vendre un truc où n'importe qui peut le faire chez soi rapidement avec un peu d'imagination. La photo, c'est le passé. C'est-à-dire qu'on sait faire de très belles images avec Stable Diffusion, Dali ou Midjourney sans problème. C'est un art de faire du prompt, c'est un art de faire une belle photo. Parce que c'est pas vrai que n'importe qui balance un truc, il y a 90% de choses qui sont très moches. Bon bref, la photo, c'est du passé. 2024, c'est vraiment l'arrivée de l'équivalent de ce qui s'est passé il y a 4-5 ans avec les images fixes. C'est l'arrivée de la vidéo générative. C'est-à-dire qu'on fait la même chose par prompting, mais pas seulement par prompting, en donnant des références. On fait ce qu'on appelle du transfert de style. On va donner des exemples de films, de photos, de couleurs, de tableaux, ou même ce qu'on peut appeler des contrôles nets. C'est-à-dire qu'on va donner des squelettes, des positions, ce genre de choses, et on va pouvoir essayer de contrôler, fabriquer des vidéos qui sont parfaitement réalistes. L'équivalent.
Exemple, par exemple, je sais pas, moi, je suis un fan de Sergio Leone. Voilà, une ambiance un peu.
Ça sera la même chose que pour des photos, c'est-à-dire par prompting, on pourra dire je veux un cow-boy qui rentre dans un saloon avec la tête d'un mec qui ressemble à Clint Eastwood, cadré de telle manière avec une ambiance à la Sergio Leone ou alors une ambiance on peut faire des crossovers, de mélanger les trucs,
ouais.
Et on va avoir un mec qui avance et qui correspondra aux critères de ce qu'on donne. Jusqu'à maintenant, il y avait des dispositifs comme Runway, Picalab ou ce genre de choses qui permettait de faire de l'image animée, mais c'était très court, c'est sur 3-4 secondes et ça hallucine très vite et ça fait des choses un peu bizarres très très vite. Sora, qui va être à la disposition du grand public dans peu de temps, voilà, certainement à la rentrée, et arrive à fonctionner vraiment bien. Les Chinois sortent un outil que...
Vous l'avez déjà testé, en fait, Sora? Parce que je crois qu'il est...
Non, c'est extrêmement difficile de l'avoir. Donc, on va être un peu comme tout le monde. Nous, on se concentre toujours sur notre outil Face Engine, sur les visages, etc. Et on va avoir, comme tout le monde, des accès un petit peu en avance, mais travailler avec ça.
Parce que vous, votre job, c'est ça. C'est de faire des effets spéciaux, c'est de faire de l'animation. Chez MacGuff, qu'est-ce que vous faites, en fait?
Alors, chez MacGuff, on doit faire juste des images impossibles à fabriquer en général, ou alors trop chères, ou alors de retaper des images qui auraient dû être comme ci et qu'on veut comme cela. C'est-à-dire qu'on fabrique de l'image animée, nous, bien sûr. De l'image animée broadcast qui peut rentrer dans l'univers stylistique d'un réalisateur et d'un chef opérateur d'une décision artistique et avec une qualité dite broadcast, c'est-à-dire de très haut niveau, ce qui est un peu plus difficile à obtenir. C'est un peu la différence entre des images qu'on peut faire un peu chez soi et ce que MacGuff est capable de faire. Mais c'est pas parce qu'il y a l'arrivée de Sora et de cette possibilité de faire de la vidéo, c'est-à-dire de faire des films sans caméra, en gros.
Et sans acteur.
Oui, sans acteur. Mais on peut tout faire. Mais on peut faire des choses très hybrides. Et c'est ce qui va se passer dans les années qui arrivent. Pour l'instant, il faut comprendre que si on veut faire un film, si on prend strictement ce que Sora saurait faire, je dis c'est un homme qui rentre dans le saloon, premier plan, deuxième plan, il est dans sa chambre à coucher, il va rejoindre sa femme, troisième plan, on le voit au volant d'une voiture, il va pas avoir la même tête.
Ah oui, et ça, d'un c'est plan un problème. À l'autre.
Donc la continuité est quelque chose qui est un peu complexe. Alors, on a eu
mais
les
ça, c'est une question de moi. En fait, ça va être
oui, mais il va contrôler ça sur le monde entier, ça va prendre du temps. Donc les choses vont être extrêmement hybrides. Donc l'utilité d'avoir des sociétés comme MacGuff qui maîtrisent l'IA particulièrement va être quand même viable pendant pas mal de temps encore.
Vincent Luciani, cofondateur et CEO d'Artefact. Alors vous travaillez, vous êtes un spécialiste de la data et de l'IA au service des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que le divertissement, c'est un sujet qui vous intéresse aussi?
Oui, tout à fait. Alors, je pense que on travaille dans beaucoup de secteurs. Mm-hmm. On est aujourd'hui un des leaders du conseil de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients pour aller construire des cas d'usage avec ces technologies. Donc, on travaille dans tous les secteurs. Et alors, il y a un domaine historiquement qui était très touché, c'était le domaine de la publicité, du marketing, qui a pris l'angle historiquement par le biais de la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais la possibilité de diffuser des messages différents en ciblant sur les données des consommateurs. Donc, c'est comme ça que le secteur du marketing s'est lancé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a deux tendances qui se croisent et qui vont devenir très intéressantes. C'est la capacité de générer des contenus et la capacité de cibler. Et ce qui va être intéressant, c'est de croiser ces dimensions. Au-delà de ça, on a vu le secteur du divertissement en vrai chamboulement. On pense que ces technologies qui arrivent sont des formidables opportunités tout au long de la chaîne finalement. Nous, on observe des gens qui utilisent à la fois tout en amont pour créer des ambiances, des moodboards. Donc on voit vraiment des gens s'inspirer en utilisant des choses type Midjourney pour aller créer finalement des inspirations jusqu'à l'univers de la post-production. Je pense que notamment le son, toute la capacité à traiter du son, ça fait déjà 4 à 5 ans. Je pense que certains outils sont utilisés depuis de nombreuses années. Et donc voilà, on pense que c'est une opportunité parce que ces technologies sont accessibles, elles démocratisent finalement la capacité de produire du contenu, mais c'est finalement aussi intéressant parce que c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de recul sur ces technologies, donc c'est intéressant aussi parce que ça combine vraiment un savoir-faire humain. On parlait de prompting à l'instant. Il y a encore des choses qui sont bien meilleures aujourd'hui manuellement. Les technologies vont évoluer, mais ça reste encore un savoir-faire manuel.
Je vous coupe quelques secondes. Le prompting, c'est le fait de commander en fait à l'IA quelque chose et de lui expliquer ce qu'on veut. Hein.
Oui,
c'est une requête.
C'est une requête. C'est les ordres. C'est les ordres qu'on va lui donner. Mais le prompting n'est qu'une des voies d'entrée dans la capacité à contrôler les générations qu'on veut faire. Il y en a plein d'autres, et c'est ça tout l'art et toutes les choses qui restent à développer encore.
Ouais, et c'est l'humain qui pilote tout ça encore.
Oui, c'est bien sûr. Non, bien sûr que c'est toujours l'humain, mais à la fois. Moi, je suis vraiment optimiste par rapport au champ des possibles que peut générer ces outils, d'accord. L'humain va rester, mais l'humain, c'est pas seulement un humain qui utilise un outil. Voilà comment dire ça. C'est vraiment l'IA va devenir de plus en plus un partenaire parce que l'intelligence de l'IA va devenir de plus en plus forte. Ce qu'elle nous propose, le rebond qu'on peut faire, le genre de ping-pong qu'on peut faire, va devenir de plus en plus important.
Vincent, les entreprises qui justement sont confrontées à cette arrivée de l'IA, dans le domaine justement de la publicité, on va dire du marketing, etc., comment réagissent-elles? Est-ce que c'est panique à bord? Ou est-ce que finalement elles arrivent très vite à, à comprendre comment ils peuvent en fait accélérer grâce à tous ces outils.
Je pense que c'est la plupart des entreprises voient ça avec un angle positif. C'est-à-dire qu'on pense à la fois que ce sont des outils qu'on va mettre dans les mains finalement des gens qui opèrent ces technologies pour devenir plus productifs. C'est à la fois aussi une source d'inspiration dans les industries du divertissement, mais de manière générale dans les industries de la création. On travaille par exemple dans les industries du luxe. On voit, sans que ça remplace finalement la capacité de créer des nouvelles choses, on voit des designers par exemple utiliser des sources d'inspiration. Et donc ça met aussi finalement des outils à la main de ces gens-là. Une chose qui est importante et la raison d'être aussi de notre travail, c'est que finalement ces technologies, ça fait pas tout. Un des gros sujets pour nos clients, c'est comment est-ce qu'on va les utiliser, comment est-ce qu'on va faire des choses avec. Et donc il y a notamment beaucoup de travail à faire sur les sujets d'adoption. Et donc nous, on accompagne beaucoup sur finalement la prise en main. Parce que ces projets finalement ne tombent pas du ciel. La technologie, c'est un vecteur, mais finalement, il faut bien l'utiliser. Et du coup, quelles sont les limites de ces outils? On pourrait y revenir. Dans quelles conditions ils fonctionnent? Ça fait partie de la façon dont on va définir ces usages. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup avec les entreprises.
Et justement, quelles sont les limites, à votre avis? En tout cas, les lignes rouges à ne pas franchir?
Alors, ce qui est intéressant, on pourrait y revenir. Donc là, justement, on a lancé une grande expérimentation dans le secteur du divertissement. Donc, on lance un festival de courts-métrages autour de l'intelligence artificielle en partenariat.
L'Artefact AI Film Festival.
Exactement, le Artefact AI Film Festival en partenariat avec MK2, qui est pour nous un des leaders du cinéma d'art et d'essai en France, qui est fortement technologique, qui est présidé par Jean-Pierre Genet, qui est un réalisateur qui s'est beaucoup investi sur l'usage de la technologie, qui a mis en scène et a utilisé beaucoup de technologies. Et ce qui est intéressant, c'est que ces technologies sont très nouvelles. Les plus anciennes ont quelques années, les plus récentes ont quelques mois, et sans doute les prochains mois, on va voir arriver, on mentionnait Sora, des technologies qui vont arriver. Donc, ces limites évoluent. Si je fais un parallèle avec le texte, il y a encore quelques années, l'humain rédigeait mieux le texte que la machine, et en fait, depuis 3 ou 4 ans, ces limites sont rattrapées, et depuis quelques mois, ça a été dépassé. Je pense que ça va être la même chose dans la production du son, demain dans la production de la photo, dans la production de la vidéo. Donc, on voit ces limites qui évoluent constamment. Après, au-delà des limites techniques, il y a de nombreuses limites qu'il faut discuter et sur lesquelles l'expérimentation est, je pense, intéressante. L'utilisation du droit d'auteur, par exemple. On voit qu'il y a de nombreux débats, notamment aux États-Unis, qui ont commencé à réguler ces sujets. La transparence dans l'accès au contenu et l'usage des contenus. La propriété intellectuelle. Donc tout ça, pour nous, c'est des thématiques importantes. Mais cette expérimentation qu'on lance avec MK2, donc il y a pour but de co-construire du contenu. Donc c'est des courts-métrages qu'on va fabriquer avec des intelligences artificielles, c'est justement pour voir comment les artistes, les créateurs de contenu s'approprient ces
technologies. Donc ce serait des contenus 100% fabriqués par l'IA?
Non, pas du tout.
Ou en partie simplement, par exemple un décor, c'est fabriqué par l'IA, ou certaines parties en fait
pour participer, donc c'est un concours qu'on propose, c'est ouvert à toutes et à tous. Pour participer, on propose d'utiliser une IA pour la pré-production, la production et la post-production. Donc typiquement, utiliser une IA pour faire des dialogues, quelques plans de séquences, et puis la post-production, ça peut être par exemple une musique ou des effets spéciaux. On pense pas du tout qu'il y a la capacité aujourd'hui de créer un film entièrement avec une IA. On voit beaucoup une hybridation entre l'homme et la machine. Il y a des allers-retours, notamment c'est l'art du prompting qu'on évoquait il y a quelques instants, ça suggère une espèce de maïeutique entre l'homme et la machine. Donc on ne pense pas que ça va être complètement remplacé. Nous, on pense vraiment qu'il va y avoir une complémentarité, et l'objectif, c'est de trouver finalement cette dialectique.
Rodolphe, vous travaillez avec les plus grandes plateformes américaines, que ce soit Apple, Netflix, etc., Prime, qui font appel à vos services pour améliorer tout leur contenu. Ils se posent des questions concernant l'IA, tous ces grands studios de production. On le voit, ça a bouleversé évidemment les comédiens, les scénaristes qui ont été en grève pendant des mois et des mois aux États-Unis l'année dernière.
Justement, la grève, ça a été un point chaud qui n'est pas seulement lié à qu'est-ce que c'est que l'IA en soi, mais qui est lié à beaucoup de problématiques d'argent.
Oui, des revendications, les producteurs américains
veulent utiliser ou jouer ces choses. Oui, elles sont très... Nous, on a plein d'expériences. Je ne peux pas citer quelle plateforme, mais on travaille toutes avec les plus grandes. Il y en a au moment des grèves qui ont été frileuses au point... Alors qu'on avait travaillé longuement pendant plusieurs mois sur un résultat excellent où la mise en scène, les réalisateurs étaient vraiment très contents du travail qu'on faisait, nous ont demandé d'arrêter de faire de l'IA parce que c'est un sujet trop chaud au moment des... Et donc de faire les choses autrement, disons, à l'ancienne globalement. Cela dit, il y a des plateformes qui ont... Nous, on a travaillé donc sur... par exemple, hop là, Arsène, sur Lupin, et, qui est un, oui. un film de plateforme, enfin une série de plateformes.
Avec Omercy, qui est un succès mondial d'ailleurs. Hein,
ouais, qui a été, cette, où cette on a série. Fait un travail qui, est, bon, qui a été reconnu, ou sur Tapis, où on a fait plus de 1000 plans, etc. C'est des films de plateforme aussi. Donc, de toute façon,
donc c'est... là, c'est quoi l'idée? C'est de, par exemple, de transformer le visage du comédien pour qu'il ressemble un petit peu plus à Tapis. Même ça.
Alors, comme pour l'image fixe, c'était de l'ordre du passé, ça, MacGuff maîtrise bien. Grâce à Face Engine, donc l'outil qu'on fait, tout ce qui est de la manipulation de visage. Dans le cas de
c'est-à-dire que je pourrais concrètement avoir votre visage là.
Ah oui, sans problème, mais ça c'est un deepfake conventionnel, c'est assez facile.
Et personne ne se rendrait compte de la supercherie.
Non, personne. Et surtout, les choses plus complexes qu'on pourrait faire, je pourrais faire que vous soyez extrêmement maigre, ou extrêmement gros, ou bouffi, ou beaucoup plus âgé, ou une femme, en gardant votre qu'on vous reconnaîtrait en tant que femme,
mais
par exemple.
En fait.
Ou alors un grand brûlé, ou un zombie. Ça, on travaille sur ce genre de choses. Ça fait de s'éloigner de plus en plus du visage, globalement, mais encore une fois, de broadcast et de manière qualitative. Donc,
et très réaliste.
Ah ben parfaitement réaliste. Okay. Quand je parle de broadcast, c'est un mot un peu à l'ancienne, mais c'est pour dire que il y a beaucoup de gens qui sont, il y a un mot, enfin je ne vais pas utiliser celui-là parce qu'il n'est pas poli, mais qui sont pointilleux au pixel près pour que les images soient vraiment de bonne qualité. C'est ce que MacGuff amène en plus,
d'accord,
que des choses qu'on peut voir de temps en temps.
C'est l'excellence
sur le net.
En fait.
Ah, c'est pas que c'est l'excellence, c'est que ça passe pas si c'est pas broadcast. Donc ça pose des problématiques très claires. Par rapport à tout à l'heure, tu disais que le changement de paradigme va être beaucoup plus grand que ça. On disait, oui, on le fait en pré-prod, en gros, on va trouver des concepts pendant l'écriture, le tournage et la post-production. L'arrivée de l'IA, elle renverse toute ces logiques-là. C'est-à-dire que nous, on est considérés comme des gens de post-production, mais en fait, la notion entre tu vois, le chien qu'il a montré tout à l'heure, c'est un concept sketch, il peut avoir le niveau de qualité final qui va se retrouver dans l'affiche au final. Donc, ça bouleverse même la hiérarchie et la ligne temporelle de la fabrication des choses.
Ouais, mais si je suis photographe, je panique à bord quand même, non?
Non, parce que je pense, est-ce qu'un bon photographe va pas devenir un bon prompteur l'important, c'est de l'avoir l'œil. Moi, le truc qui est contre-intuitif quand on parle d'IA, c'est que ça booste la créativité. En gros, ceux qui vont bien s'en sortir avec de l'IA, c'est ceux qui sont capables d'avoir un œil, qui ont quelque chose à dire, c'est ceux qui ont un univers et qui savent ne serait-ce que reconnaître dans une image qui est intéressant ou ce qu'il est pas.
Mais pour le moyen, on va dire.
Mais pour le moyen, c'est pas mal. On peut parler, plutôt que d'ubérisation, de parler de démocratisation.
D'accord.
C'est-à-dire des tas de gens pourront...
Je pense que le bon exemple, c'est l'iPhone. C'est-à-dire l'arrivée de l'iPhone aurait pu tuer le photographe. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais eu autant de photographes dans le monde, des nouveaux créateurs de contenu. Avec aussi l'association avec
les plateformes. Ça tue le marché des compacts et de l'appareil photo numérique traditionnel aussi.
Alors, il y a encore des gens qui utilisent ces appareils photo,
mais
c'est sans doute beaucoup moins. Mais je pense qu'il faut regarder, c'est que le métier de photographe a évolué. Pour une grande partie, il s'est hybridé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un photographe va utiliser des photos, va peut-être mélanger ça et retravailler les photos sur Photoshop. Donc, je dirais qu'il y a une association intéressante entre la créativité et la technologie. Et puis, il y a aussi des tas de gens qui se sont lancés dans la photo, qui ne l'auraient pas fait, parce qu'il y avait trop de difficultés d'accès aux appareils traditionnels qui sont lancés, par exemple, sur Instagram. Et donc, ça a aussi ouvert tout un pan de nouvelles économies. Et donc, en fait, tel qu'on le perçoit, les couches technologiques se superposent, elles ne se gomment pas. Aussi, l'arrivée du cinéma n'a pas tué le théâtre. Voilà, et donc, en fait, il va y avoir, je pense, une complémentarité. Certains métiers vont fortement évoluer, peut-être certains métiers vont disparaître, mais aussi, ça va être aussi, il faut regarder que ça va être aussi des nouvelles opportunités pour des gens qui n'auraient jamais créé de contenu de pouvoir se lancer.
Alors, vous savez que je co-anime cette émission avec une IA, BFM IA.
On l'a vu.
Et je lui pose la question, est-ce que tu penses qu'il est envisageable qu'un jour un film soit entièrement créé par l'IA, BFM IA?
Oui, il est tout à fait envisageable qu'un film soit entièrement créé par l'IA, tant pour l'image que pour le son. Des progrès significatifs ont déjà été réalisés dans la génération de vidéos, la composition musicale et la création de dialogues par des intelligences artificielles. On pourrait voir un tel film dans les 5 à 10 prochaines années, à mesure que la technologie continue de s'améliorer et de devenir plus accessible. Ce sera une étape fascinante pour le divertissement et la créativité.
Bon, elle prône pour sa paroisse.
Elle est biaisée. Elle est biaisée.
Ouais, mais franchement, 5 à 10 ans...
Elle est très pessimiste, c'est beaucoup plus rapide que ça. Là, vous avez un film dans les 2 ans qui sera un peu moche et qui sera fabriqué parce que c'est l'exercice de style de faire ça qui peut être fait entièrement en IA. J'en fais le pari, là.
Donc, un réalisateur va communiquer sur le fait que son prochain film pourrait être réalisé à 100% par l'IA. Ouais, d'ailleurs, il est en projet.
Ils sont déjà en projet. Il y a déjà des courts-métrages qui se font. Il y a un moyen-métrage qui est en route. Je vois pas pourquoi il ferait pas un long-métrage. Ouais. Ça risque d'être un peu moche ou un peu raté, mais c'est pas dans 10 ans, non.
Ouais. Passionnant tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Vincent Luciani.
Merci.
Cofondateur et CEO d'Artefact avec ce Artefact AI Film Festival que vous êtes en train de mettre en place. Et merci à Rodolphe Chabrier, président de MacGuff.